Bonjour à tous. Nouveau spécial Japon pour la seconde partie de l'épisode 29. Cette fois-ci, je m'entretiens avec Amine, game designer installé au Japon depuis plus de 6 ans, qui va nous raconter son parcours et ses expériences. Bonne écoute. Salut Amine, ça va bien ?
Salut, ça va et toi ?
Ça va très bien. Alors bah écoute, merci de prendre le temps. Je sais que tu es très occupé, je suis moi-même occupé, c'est la dure vie dans la métropole tokyoïte.
Et oui.
On est ce soir à Shinagawa et bah, je suis ravi que tu prennes le temps de venir dans l'émission. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer,
t'avoir
dans l'émission, on se connaît. Hein. On se connaît, mais bon, ça fait plus. C'est un projet qu'on a en cours, on en parle depuis un petit moment. Donc voilà, tu as pris le temps, c'est super. On peut enfin parler de ta vie au Japon, ton expérience au Japon, et ça va être très intéressant.
Ouais, bah déjà, bah, merci beaucoup de m'accueillir et ça avec plaisir.
Super, alors bah, écoute, on va commencer par le début. Tu viens d'où ?
Je viens bah, de France, bien sûr, dans une ville. Enfin, je viens d'une ville qui s'appelle Villepinte, qui est donc en banlieue parisienne.
Ouais.
Donc j'y ai vécu la majeure partie de ma vie.
Et Villepinte, moi, ça me fait penser à la Japan Expo.
Bien sûr, ouais.
Donc je crois qu'il y a un petit cercle là qui est en train de se former.
Ouais.
Donc tu as connu la Japan Expo, j'imagine ?
Ah, ça oui. Bah, avant que je parte au Japon, c'était quasiment chaque année à la Japan Expo.
D'accord. Donc c'était. Il y a une passion derrière, il y a quelque chose. T'es pas venu au Japon. Par hasard.
Oui, il n'y a pas un hasard, oui, bien sûr. Ouais.
D'accord. Donc, bah, je vais te demander, en fait, c'est quoi ton premier contact avec le jeu vidéo ? C'était quoi, bah, je ne sais pas, ton premier souvenir de joueur ?
Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais je devais avoir 5-6 ans.
Ouais.
Donc, ma toute première console, c'était bien sûr, bah, comme beaucoup de personnes, la Super Nintendo.
Ouais.
Et le premier souvenir que j'ai des jeux vidéo, c'est bien sûr Super Mario World. C'était vraiment mon tout premier jeu. Ouais. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai découvert
T'as
le jeu vidéo.
T'as bien commencé quand même.
Ouais, ça j'avais.
T'aurais pu commencer pire, hein.
C'est clair, surtout sur Super Nintendo, mais.
Ouais. Ouais. Du coup, tout a commencé de là. Tout a commencé avec Super Mario World.
Bien sûr.
À Villepinte.
Ouais.
Sur ta Super Nintendo.
Exactement.
Donc là, je me demande, en fait, c'était quoi ton premier contact avec le game design, mais je pense pas du tout d'une manière professionnelle. Je pense plus, tu sais, quand on est petit, peut-être, on commence à imaginer des choses, on commence à dessiner des niveaux, on commence à se dire, à développer une histoire, à se dire, si ces personnages se parlent, ils se diraient ça. Est-ce que tu étais ce genre de petit enfant ?
Alors, en fait, c'est marrant parce que quand j'étais en école primaire, j'avais un grand classeur rempli de sortes de labyrinthes que tu devais suivre avec ton crayon. Mais malheureusement, j'ai tout perdu, mais je pense que c'était ma première expérience en level design, mine de rien.
Ah ouais ?
Ouais, c'était genre vraiment sur des feuilles de classeur, faire des sortes de labyrinthes avec des. Un peu une sorte de Metroidvania sur papier, quoi.
Ouais, et tu faisais jouer tes collègues ou
mes collègues, mais.
Tes petits amis, mes petits camarades. Ouais.
Et je pense que c'était ma vraie première expérience en level design au final, quoi.
D'accord.
Quand je prends du recul dessus, mais.
D'accord, et du coup, c'est parti de là. Mais est-ce qu'après, t'as continué à faire des trucs un peu créatifs sans le savoir, tu vois, sans savoir que ça te mènerait plus tard à faire des jeux ?
J'avais beaucoup de concepts écrits sur papier, ouais. Des trucs, des schémas, tout ça, mais pas rien de très. Très
mais
probant,
orienté jeu vidéo, vraiment.
Bien sûr, ouais.
D'accord, et est-ce que. Tu écrivais des tests de jeux vidéo.
Ça, bien sûr. Mais je pense qu'on l'a tous fait avec les feuilles de classeur. Avec
un
les,
classique.
Avec les screenshots découpés de magazines collés à la colle sur des feuilles de
classeur. Alors moi, je les prenais dans les catalogues souvent.
Ouais.
Genre La Redoute était mon ami.
Ouais. On l'a tous connu, ça, je pense, ouais.
Ok, bah doute, écoute, ouais. C'est quelque part quelque chose qu'on a un petit peu tous fait, j'ai envie de dire, en game design, du moins, ouais. Les game designers. Et alors, qu'est-ce qui t'a mené à te dire que tu voulais en faire ton métier ? Est-ce que déjà, quand tu as commencé tes études supérieures, tu t'es dit « moi, je veux faire des jeux » Ou alors, est-ce que c'est venu beaucoup plus tard ?
Alors, c'est venu très tôt au final. Je pense que c'était dans mes années collège que ça a commencé à vraiment se dessiner. Mais à l'époque, je ne savais pas réellement ce que voulait dire le sens du métier de game designer.
Ouais.
Je pensais que, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de personnes, mais je pensais que c'était un métier lié au graphisme ou à la modélisation 3D,
ouais.
Tout ça. Au final, c'est là où, c'est vraiment dans mes années lycée que ça commencerait vraiment à se dessiner et que je me dis, ok, bon, bah, game designer, c'est vraiment la conception du jeu, écrit tout ça, enfin, level design, tout ça.
Ouais.
Et c'est, je pense, vraiment dans mes années lycée où j'ai vraiment commencé à me dire, bon, bah, je vais me diriger là-dedans et faire du game design au sens propre, quoi.
Alors, du coup, tu passes ton bac.
Ouais.
Donc, jusqu'à ton bac, est-ce que tu fais des choses plus ou moins liées à la création assistée par informatique ?
Ouais, alors à l'époque, je faisais beaucoup de concepts écrits justement.
Ouais.
Avec des sortes de recherches graphiques, d'univers, tout ça, illustré. Et en fait, ça m'a permis de faire une sorte de petit book, en fait.
D'accord.
Une sorte de portfolio pour essayer de rentrer dans des écoles de game design ensuite.
Ah ouais.
Donc c'était vraiment, c'était le début, quoi.
D'accord. Et est-ce que tu t'amusais avec des outils, genre est-ce que tu gribouillais avec Photoshop ? Est-ce que tu utilisais RPG Maker ?
Ouais, alors ouais, on a tous fait le petit RPG un peu pourri sur RPG Maker. On est tous passés par
avec
là.
Avec l'asset de base, en fait, on s'est tous mis dans une salle, on s'est rendu compte qu'on a tous fait le même truc.
Exactement ça, c'est exactement
les
ça.
Les mêmes assets, tout pareil.
Ouais, et du coup, Je me rappelle plus du nom du soft Photoshop, pas Photoshop, mais t'as une sorte de ersatz du.
Ouais.
J'ai oublié le nom du une sorte de d'imitation de Photoshop.
Ouais.
Hein, imitation non, mais j'essaie de faire de la colorisation dessus. Enfin ouais. Voilà, c'était vraiment les premiers débuts. Ouais. Ouais.
D'accord. Donc tu passes ton bac et là tu cherches une école spécialisée.
Ouais.
Exactement. Et tu vas te retrouver où ça?
Alors au tout début, c'était une école qui s'appelait ITCOM Art Design.
Ouais.
C'était une école d'art, en fait. C'était plus une école de graphisme que de game design, en fait.
Ouais.
Je vais être un peu méchant, mais en fait, l'école en elle-même, en fait, avait une formation qui s'appelait game design, mais qui était vraiment traxée 3D, modélisation,
animation. Donc déjà à l'époque, c'était en quelle année ça? Déjà à l'époque, il y avait déjà des formations qui se disaient game design.
Oui, bien sûr. Ouais. Alors, d'accord. C'était en 2008.
D'accord.
Moi, j'ai commencé en 2008. Donc,
d'accord, d'accord.
En octobre 2008, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je me suis rendu compte qu'au final, leur formation ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et j'ai fait une année en fait là-bas de prépa multimédia. Ça m'a permis d'avoir une base solide sur Photoshop, sur un peu de 3D, culture de l'image et tout ça.
Donc multimédia, ça veut dire qu'on te donne à peu près, on te donne juste des bases d'utilisation ouais. de logiciels. En fait. Donc, ça veut dire capture, édition de son, capture, édition de vidéo, infographie 2D, 3D,
exactement.
Ce genre de choses. D'accord. Et est-ce qu'il y a un peu de code quelque part?
Non, pas du tout, non.
Pas de code, d'accord. Donc c'est vraiment visuel, sonore.
C'était très axé visuel, ouais.
D'accord.
Même pas sonore en fait, juste visuel.
Ah d'accord, juste visuel,
ouais,
d'accord.
Beaucoup donc de culture de l'image, ouais. Ouais, enfin voilà, infographie comme bien. Tu as dit, ouais. Et donc j'ai fait une année là-bas.
Et donc c'était une formation de un an?
Ouais, c'était une prépa d'une année en fait. Donc d'accord. Moi j'ai fait l'année là-bas et puis je me suis arrêté, quoi.
Et c'était une école privée du coup?
C'était une école privée, ouais.
D'accord. Et ensuite tu te diriges vers?
Vers Isart Digital.
D'accord, donc à Paris?
À Paris, ouais. Et donc là-bas, j'ai fait ma formation game design de 3 ans.
Si 3 ans, d'accord. Ouais. Donc l'ISART, c'est une école privée, mais est-ce que ça te donne une validation au niveau des diplômes européens? Est-ce que tu as licence, master, tu te situes où?
C'est un diplôme qui est reconnu en tant que master, ouais.
D'accord.
Ouais. Après 3 ans, tu as une validation master.
D'accord, et tu peux rentrer directement après le bac?
Oui, 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 bien sûr. Il me semble que tu avais un... Bah, je crois que c'est toujours le cas, mais tu as un test écrit, tout ça.
Bien sûr, ouais, tu as une sélection à l'entrée, bien sûr.
Bien sûr, ouais.
Et tu as différentes formations. Donc, tu as game design, mais il y a aussi d'autres spécialisations.
Ouais, t'en as pas mal. Ouais. Bah, t'as une formation qui avait l'air assez intéressante, qui s'appelle game design et programming, qui permettait d'avoir une sorte de juste milieu entre la programmation et le game design, en fait.
Ouais.
Ouais, t'en avais plein d'autres.
Est-ce que tu dirais que ça te permet de prototyper des jeux ou est-ce que c'est plus axé sur du tech design?
Je pense que c'est axé tech design, ouais, mais je pense que ça te permet justement, comme tu dis, de prototyper tes jeux. Je pense d'accord. que c'était un début de la formation de...
C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, en tout cas moi, dans mon expérience, j'ai vachement constaté qu'il y a beaucoup de demandes pour les tech designers.
Ouais.
Et qu'à défaut d'avoir des game designers qui sont bons en code, on va avoir tendance à embaucher des codeurs mais qui ne sont pas bons en game design.
Ouais.
Donc c'est vraiment un juste milieu qui a besoin, quoi.
Bien
et
sûr,
des
ouais.
gens qui sont autant agiles en game design qu'en technique, c'est-à-dire en code, en script, c'est plutôt rare. Du moins dans mon expérience, on a toujours galéré à en trouver des bons.
Ouais.
Donc voilà, c'est pour les gens qui nous écoutent, hein, si vous voulez.
Bien sûr, ouais.
Si vous hésitez encore, c'est peut-être une branche
bien sûr, ouais.
vers laquelle vous tournez.
Mais je pense que c'est plutôt une bonne formation aussi, parce que dans le sens où ça peut vraiment créer un lien entre une sorte de pont entre le game design et la programmation, en fait, je veux dire. Ça permet de faciliter la communication entre les deux départements.
Ouais.
Tu bosses dans une boîte.
C'est toujours vraiment important, je dirais, pas tant que ça. Après, ça dépend où les gens travaillent, mais pas tant que ça pour la carrière professionnelle, mais plus pour le développement personnel, d'être capable de prototyper en fait.
Clairement, oui.
D'avoir une méthode de prototypage. Après, ça ne veut pas nécessairement dire prototypage codé. Là, en l'occurrence, oui, c'est ce que j'implique. Mais oui. Par exemple, j'ai rencontré des gens qui faisaient que du proto-papier et c'était à chaque fois impressionnant. C'était à chaque fois, putain, c'est un jeu en soi, quoi.
Ouais,
on pourrait s'amuser avec du papier. Ouais. Donc voilà, c'est bon, pardon, c'était une petite aparté.
Bien sûr, pas de problème.
Donc, c'est quoi, donc, du coup, l'ISART, comment tu l'as vécu? C'était cool?
C'était plutôt cool, ouais. Enfin, la formation était plutôt riche.
Ouais.
Bah, en fait, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que ça a permis d'appréhender pas mal de soft, en fait.
Ouais.
Donc
très pratique.
C'était, ouais, clairement, ouais.
Donc, pas tant de théorie que ça.
Oh si, quand même, si, ouais, mais il y a beaucoup de théories, bien sûr, sur le game design, sur beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment apprécié la formation parce que ça formait à beaucoup de soft au final.
D'accord.
Donc, ouais, c'est un peu vieux, mais Flash,
mais Flash, ça reste un très bon outil de prototypage. Hein.
Clairement, ouais.
Aujourd'hui, j'avouerai
ouais, c'est
que je n'ai Flash installé sur aucune de mes machines.
Ouais, bah pareil. Ouais.
Depuis que l'AS2 est mort, c'est compliqué. Ouais. Mais oui, c'était à l'époque, c'était un bon outil. Ouais.
Clairement,
c'était
ouais.
un bon outil.
Mais je me rappelle qu'un des travaux qu'on avait là-bas, c'était faire une sorte de mini-jeu de WarioWare, en fait, un prototype sur Flash.
Ah ouais.
Et c'était assez marrant à faire, quoi.
Cool.
Après ça, enfin après Flash, t'avais le fameux moteur Virtuals. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. Une vraie purge. Enfin, je me permets de le dire, mais à la fin de chaque année, on avait une sorte de prototype à faire sur Virtuals et c'était plutôt très cool à faire, quoi.
Bah alors pourquoi Virtuals? Pourquoi est-ce qu'ils choisissaient Virtuals?
J'en ai aucune idée.
D'accord.
J'en ai vraiment aucune idée, ouais.
Est-ce que vous utilisiez des logiciels comme Game Maker ou Multimédia Fusion?
Je crois que c'était le cas il y a très longtemps. Il me semble que la formation appliquait aussi le Game Maker du coup. Mais je crois que je sais même plus si c'est le cas. Je sais pas si c'est le cas actuellement ou ouais.
D'accord. Idée. Très bien. Est-ce que la formation, elle t'impose de faire des stages?
Il me semble que t'as une. Moi en fait j'ai eu la chance d'être en alternance en fait pendant toutes mes études.
Ah donc t'avais une boîte.
Ouais, clairement.
C'était quoi la boîte, tu vois?
C'était Tetra Edge Games.
D'accord.
Qui n'existe plus malheureusement maintenant.
D'accord.
Et du coup, j'ai eu vraiment la chance inouïe d'être en stage, en alternance pendant toute ma scolarité à Isart.
Ouais.
Et à ITCOM aussi. Et en fait, avec un stage alterné, un contrat de professionnalisation, pardon,
ouais,
ça permet de financer justement tes études,
mm-hmm,
et d'avoir en même temps de commencer à construire ton expérience dans le milieu professionnel.
Bien sûr, ouais. Ouais. Donc tu sors, t'as de l'expérience, t'as un CV, clairement, t'as un diplôme, donc ouais, t'es juste prêt à aller bosser, quoi.
Exactement, ouais. Mais le gros problème, en fait, c'est que ce genre de formation est très difficile à trouver, en fait, pour l'élève, en fait. Un contrat de professionnalisation dans le jeu vidéo, c'est très difficile à trouver.
C'est vrai.
Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui, justement, mettent en avant que tu peux prendre un contrat de professionnalisation, pardon, pour financer tes études, mais au final, ça reste des cas très rares, je pense.
À mon époque aussi, c'était très compliqué en fait.
Bien sûr.
Il y avait l'option de le faire,
ouais,
mais à l'époque, du moins, très peu de boîtes de jeux vidéo étaient intéressées de prendre des gens en alternance.
Ouais, bah pareil.
Encore moins en game design.
Exactement. Ouais.
Ce tarif, déjà, t'as aucun acquis, t'es à poil.
Ouais.
Alors qu'en fait, entre guillemets, la chance qu'on a en France, c'est que les écoles de game design, du moins le top 3 des écoles de game design, elles ont un nom. Et le simple fait de sortir de cette école et d'avoir le diplôme, les boîtes font confiance. Mais disons que arriver pendant ta formation en alternance et dire. Prenez-moi, je vais apprendre. À moins que ça soit une boîte qui voit sur le long terme et qui dit on va le former, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pas évident à ce niveau-là. Donc ouais, t'as eu beaucoup de chance.
Bah, je suis tout à fait d'accord. Ouais.
Du coup, c'était quoi les tâches que t'avais à peu près?
En fait, au tout départ, c'était un boulot de QA tester en fait.
Ouais.
Moi, c'était beaucoup de QA de.
Ouais, c'est un début normal, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de gens qui commencent en game design en QA.
Ouais. Et après, j'ai un petit peu glissé dans l'assistance de game design aussi. Ça s'est fait vraiment petit à petit.
Mais c'était quel profil de boîte du coup, Tetra Edge? C'était une boîte qui prenait des contrats? Ou est-ce qu'ils avaient leur prod interne?
Il y avait des prods internes.
Ah d'accord.
Des petits projets un peu de side project, mais c'était beaucoup de contrats, ouais.
D'accord.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des projets qui sont sortis? Ou est-ce que tu peux nous, même sans nous raconter le projet, si c'est pas connu, ouais, juste nous dire c'était quel genre de choses tu faisais sur ce projet?
Bah, je peux parler de mes tout premiers projets si ça t'intéresse.
En tant que game designer?
Non, en tant que QA tester. Ouais, c'était mon tout premier projet, mais vraiment tout premier projet, c'était un jeu qui s'appelait Safari Adventures,
ouais,
sur DS.
Ouais.
Ouais, c'était relativement un mauvais jeu, on va dire. Mais ça reste un bon souvenir parce que c'était mon tout premier projet.
C'est un jeu console en plus.
Ouais, c'est un jeu.
On n'a pas tous eu la chance de commencer sur console.
Bien sûr, ouais. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et
vas-y.
Et du coup, il y avait un autre jeu DS, c'était Déco Tendance, un autre jeu DS.
Comment?
Déco Tendance.
Déco Tendance, pardon, ouais, j'avais pas entendu.
C'était pareil, c'était pas vraiment un bon jeu, mais j'en ai toujours des bons souvenirs, mine de rien, voilà.
D'accord.
Ouais.
Et donc après ce jeu, donc c'était quoi ta première expérience game designer?
C'était en fait des. en fait, il y avait beaucoup de jeux qui étaient faits, des jeux d'aventure de Microïd en fait, à la grande époque du PC.
Ouais.
Donc Dracula, Retour sur l'île mystérieuse, tout ce genre de jeux.
Ouais.
Je sais pas si tu connais, non?
Alors il me semble que j'ai joué à Dracula.
Ok, Dracula 3, je sais pas si ça dit quelque chose.
Alors le 3 peut-être pas, mais le premier, ouais.
Ok, bah ouais, c'est
le vieux.
Très vieux, ouais. Et du coup, en fait, on faisait des portages de ces jeux PC vers iPhone et tout ça. Et c'était vraiment des sortes de versions remasterisées.
D'accord.
Parfois plus simples que les jeux originaux.
Donc, tu faisais beaucoup de design d'interaction, j'imagine?
C'est un peu ça, ouais. Je faisais beaucoup de réadaptation de puzzle, d'intégration, beaucoup aussi. Beaucoup, beaucoup d'intégration.
Ouais.
En UA, tout ça, des scènes de jeux, de puzzle, ouais, d'intégration d'UI aussi.
D'accord.
Design d'UI aussi. On faisait un peu de tout, enfin vraiment de tout, quoi.
Et niveau contenu, le jeu, il restait le même. Il n'y avait pas de
rajout quasiment
contenu.
Le même, ouais.
D'accord.
Ouais, ouais.
Ok. Donc ça, du coup, c'était ton expérience chez Tetra Edge.
Ouais.
Et ça t'a suivi tout le temps que t'es resté à Lizard.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Du coup, Lizard se termine.
Ouais.
Est-ce que à la fin de Lizard, ils t'ont proposé un contrat?
Non, parce que j'avais déjà décidé d'arrêter en fait. Donc,
Donc de toi-même, tu avais décidé de faire autre chose.
Ouais. Donc en fait, un an avant la fin de Lizard, en fait.
Ouais.
C'était donc en 2011. J'avais déjà commencé à esquisser des plans pour partir au Japon à ce moment-là.
Ouais.
Et du coup, je savais déjà d'avance qu'à la fin de mon contrat de professionnalisation, du coup, en 2012, je savais que j'allais arrêter pour justement embrayer sur le Japon.
D'accord.
Ouais.
Mais justement, en parlant d'Isart et de Japon, Il me semble que Lizard, c'est une des. Il me semble que c'est la première école qui proposait une assistance, en fait,
ouais.
pour que les étudiants puissent partir, continuer leurs études au Japon et s'insérer dans l'industrie du jeu vidéo au Japon.
Ouais.
Est-ce que c'est ce que tu as fait, toi ?
Ah non, pas du tout. Alors, en fait, c'était une sorte d'alliance entre une école qui est à Niigata.
Ouais.
La NCC, je crois.
Ouais.
Et du coup, bah, Lizard avait une sorte comment on appelle ça ? De contrat, en fait. Mm-hmm. De lien, en fait.
Ouais, un accord, ouais.
Ouais, un accord, voilà. Et du coup, bah, en fait, Lizard t'envoyait des étudiants là-bas. Donc, ils pouvaient étudier le japonais et ensuite, après, pouvoir se lancer dans le jeu vidéo.
Mais du coup, les étudiants qui sont envoyés au Japon, ils n'étudient que la langue ?
Ah, ça, je suis pas très sûr, ouais.
D'accord.
Mais une grosse partie de la langue, ouais. Et puis, après, je suis pas très sûr, ouais.
Ok.
Et moi, je suis. Ouais.
Mais du coup, pendant ton temps à Lizard, est-ce qu'il y avait des cours de japonais qui étaient offerts à Paris ?
En fait, quand je suis rentré à l'école en 2009, il y avait déjà des cours de japonais qui étaient proposés. Bah, c'était des cours obligatoires, du coup.
Ah, obligatoire ?
Ouais, obligatoire.
Donc,
c'est
tout le monde à Lizard étudie le japonais ?
Ouais.
À l'époque, du moins.
En tout cas, dans la section game design.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah d'accord. Mais j'imagine que vous faites aussi de l'anglais ?
L'anglais, oui. Mais il me semble qu'il y avait de l'anglais, oui, bien sûr.
Ouais. Ah ouais, d'accord.
Et en fait, le gros problème, c'est qu'en 2009, j'avais pas vraiment un gros intérêt pour le Japon à ce moment-là. Enfin, j'avais pas vraiment l'idée d'apprendre le japonais pour partir. Donc, du coup, j'avais un peu ignoré. Enfin, j'avais pas vraiment bien suivi les cours de japonais. Et ce qui est malheureux parce qu'au final, on avait vraiment pas mal de cours et ça aurait pu vraiment me permettre de, dès le départ, avoir un bon niveau de langue. C'est malheureux, mais bon. Ouais.
D'accord. C'est surprenant parce que tu consommais des choses venant du Japon. J'imagine que tu regardais des animés, tu lisais peut-être des mangas.
Pas des masses, ouais. Mais
pas des masses, tu joues aux jeux vidéo japonais.
Bien sûr, ouais.
Mais, donc tu dirais qu'en majorité, c'était juste tu joues aux jeux japonais.
Ouais.
Donc t'étais pas vraiment un otaku. J'imagine que dans ta promo, il y a des gens qui étaient beaucoup plus otaku que toi.
Ah oui, clairement.
D'accord. Donc, ouais, t'avais pas trop d'intérêt pour le truc.
Ouais.
Mais alors, comment ça s'est développé cette envie de partir au Japon ? Parce que t'aurais pu dire, bah non, je vais en Angleterre, je vais aux États-Unis, ouais. Je vais au Canada.
Mais en fait, c'est bizarre parce que j'ai pas une raison particulière, en fait. Au tout départ, je pensais partir au Canada, en fait.
Ouais, comme c'était tout le monde.
Comme tout le monde, ouais. Enfin, je pense que là-bas, c'est un peu saturé, ouais. Mais j'avais toujours une envie de partir au Japon, en fait. C'est l'envie de découvrir le pays, tout ça. En fait, quand je suis parti, j'étais pas du tout dans l'idée de rester, en fait, là-bas. Bah, j'étais parti comme beaucoup de personnes avec un working holiday visa.
Ouais.
Visa vacances-travail. Et je pensais rester là-bas 6 mois, en fait.
Ah, c'était juste pour kiffer, en fait. C'est
exactement.
Un voyage.
Exactement, ouais.
D'accord.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, après les études, on va faire un petit break, partir genre quelques mois au Japon juste pour.
Mais surtout qu'en fait, tu travaillais.
Ouais.
Et la majorité des gens, ils finissent leurs études, ils disent, bon, bah, maintenant, c'est le moment de trouver un boulot. Mais toi, tu finissais de travailler, t'avais passé 3 ans à travailler, du coup.
Exactement, ouais. Bah, avec mes études en même temps. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais faire un petit break, partir un peu à l'étranger, découvrir ce qui se fait ailleurs. Et je pensais faire un boulot de serveur, ou j'en sais rien, enfin, ce que je pouvais trouver pour essayer de vivoter pendant 6 mois et rentrer au pays.
Mais qu'est-ce que tu recherchais au Japon ? Quand t'es parti dans ta tête, c'est quoi que t'allais chercher ?
Le dépaysagement, quoi. Vraiment, d'accord, clairement, ouais. Essayer d'aller ailleurs et changer les idées, quoi. Clairement, okay. C'était vraiment. Je voulais vraiment quitter le pays pendant un petit moment et c'était vraiment ça que je recherchais. J'avais pas vraiment dans l'idée de bosser dans le jeu vidéo ici, en fait.
Ok.
Ouais.
Donc du coup, tu arrives au Japon.
Ouais.
Tu savais que tu partais pour 6 mois. T'as quand même fait un PVT parce que c'était le seul moyen de rester 6 mois, j'imagine.
Exactement, ouais.
Parce que le visa touriste c'est 3 mois, donc toi tu voulais rester plus longtemps, mais tu ne pensais pas avoir les finances pour rester toute l'année.
Exactement, ouais.
Avec laquelle tu avais droit avec ton PVT.
Ouais.
Du coup, t'arrives, qu'est-ce que tu fais ? T'arrives, tu fais quoi ? Comment est-ce que tu trouves un logement sans rien, sans loyer, sans salaire ?
Avant de partir, j'avais commencé quand même à essayer juste dans le doute, dans la curiosité, c'est de postuler à des boîtes de jeux vidéo, en fait. Je pensais que c'était pas possible, en fait, parce que j'avais pas un niveau, je parlais pas vraiment japonais à ce moment-là.
Et alors, t'as visé qui ? Tu peux dire vers qui t'as envoyé des CV ?
Je pourrais plus te dire une liste exacte de toutes les boîtes.
Mais est-ce que t'avais eu des réponses ?
Ouais, en fait, c'est surprenant parce que j'avais pas mal de réponses, en fait.
T'écrivais en quelle langue ?
En anglais, à ce moment-là, ouais.
Ah ouais ?
Ouais.
Et ils répondaient quand même ?
Ils répondaient, pas tout le monde répondait, mais j'avais pas mal de réponses, en fait.
D'accord.
Ça m'a un peu surpris. Et du coup, j'étais tombé sur une boîte totalement au hasard, Wiscorp, du coup. Donc, j'avais envoyé mon CV là-bas et on m'avait répondu. Et c'est parti de là, en fait.
D'accord. Donc, en fait, a priori, tu leur as dit, j'arrive.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est, les échanges de mails datent avant mon départ au Japon, en fait. Donc, j'ai envoyé des mails. Ils m'ont dit, on est intéressé par votre profil. Dès que vous arrivez au Japon, est-ce qu'on peut faire un entretien ? Moi, j'ai dit, bien sûr.
Mais alors, est-ce que tu savais à l'époque que Wiscorp, c'était. Que le CEO de Wiscorp était un français ? Ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Non.
Donc, le mail était en anglais, tu les as contactés.
Après, le nom du boss était c'était un nom qui sonnait français, donc j'avais des doutes.
Bien sûr.
Donc, dès que je suis arrivé au Japon, quelques jours après, j'ai pu avoir un entretien chez Wiscorp.
D'accord.
Et 3 semaines après, je commençais là-bas, quoi.
D'accord. Donc, ça s'est fait plutôt vite, quoi.
Assez rapidement, ouais.
D'accord. Donc, c'est Wiscorp, c'est ta première expérience dans le Japon.
Ouais.
c'est une boîte au Japon, mais qui n'est pas vraiment japonaise. Alors, il y a des Japonais qui y travaillent, mais tu travaillais en quelle langue quand t'es arrivé? Tu travaillais dans quelle langue? C'était quoi tes conditions de travail?
Bah, en fait, la plupart des employés, je dirais 70%, je dirais à l'époque, étaient des étrangers, justement. Ouais. T'avais des Français, des Canadiens, Américains, Anglais, ensemble. Et la langue principale était l'anglais, bien sûr. Mais c'est marrant parce qu'on pouvait parler en français, bien sûr, aussi, parce qu'il y avait beaucoup de Français aussi. Mm-hmm. Et quasiment pas de Japonais.
D'accord.
Ouais, donc en fait, le gros problème avec ça, c'est que justement, ça ne te fait pas évoluer en japonais. Et ça faisait une sorte de bulle, en fait. Genre, quand tu rentrais dans la boîte, t'as l'impression de rentrer dans une bulle, en fait, qui était un peu isolée du Japon. Mm-hmm. T'avais pas l'impression d'être au Japon quand tu bossais là-bas, en fait. Et ça crée une sorte de distorsion bizarre, on va dire.
Mais pourtant, vos clients étaient japonais.
La plupart, ouais.
Donc, est-ce qu'il y avait y a forcément des documents qui étaient, j'imagine, tu vois, un équivalent de cahier des charges, j'en sais rien, qui étaient montés au client, en fait, même les builds, en fait, le jeu, il était en japonais. Donc comment est-ce que toi tu fais pour développer et tester en japonais si tu parles pas la langue?
En tout cas en interne, on n'avait pas besoin de parler japonais entre nous. Donc même mes documents design étaient tout en anglais en fait. Ouais, bien sûr.
D'accord. Ouais. Et alors est-ce que toi, de ton côté, t'as fait quelque chose pour apprendre la langue pendant que t'étais à Whiskorp, ou alors est-ce que c'est venu après? Est-ce que t'as pris des cours? Est-ce que tu as cherché à rencontrer des gens, à faire de la conversation?
Ouais, alors chez Whiskorp, il y avait pas mal de cours de conversation qui étaient plutôt cool parce que ça permettait justement d'évoluer en japonais avec des cours gratuits, ce qui était plutôt sympa.
D'accord.
Mais après, c'est surtout... en tout cas, à l'époque où je bossais chez Whiskorp, ça devait venir de moi, en fait, dans le sens où je devais vraiment, de moi-même, essayer de trouver des moyens pour apprendre la langue. Donc, comme tu dis, parler avec des gens, trouver des amis ou voilà. Ouais. C'est une étape primordiale, clairement.
Alors, tu l'as fait?
Oui, bien sûr, ouais.
D'accord. Alors, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Est-ce que tu as travaillé sur des jeux? C'est quoi le genre de jeux que tu travaillais chez Whiskorp? C'est quoi les plateformes? Alors, il me semble que ce n'était pas des jeux consoles?
Non, pas du tout alors.
D'accord.
En fait, c'était encore à l'époque où tu avais une sorte de boom en fait, avec les Puzzle Match 3 sur iPhone, Free to Play, tout ça.
Donc, on était déjà sur les smartphones?
Oui, clairement, ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, j'avais développé deux petits jeux sur iOS en fait. Donc, j'ai eu la chance de bosser deux petits jeux sur des petits puzzle games en fait. Les jeux sont sortis, malheureusement, n'ont pas fait beaucoup d'argent, mais c'était plutôt une bonne expérience.
Ah, bien sûr.
Ouais.
C'est toujours ça de prix.
Bien sûr, ouais. Clairement. Ouais.
Donc, Whiskorp, c'est une aventure qui a duré combien de temps?
Un an et 7 mois, peut-être un peu moins que ça, ouais, je crois.
Donc, du coup, au terme de ton PVT, tu as dû rempiler sur un visa de travail.
Ouais.
Donc là, c'était sûr, dans ta tête, tu étais parti pour rester, pas nécessairement sur le long terme, mais déjà un petit peu plus qu'un an, quoi.
Ouais. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un renouvellement visa chez Whiskorp qui était un bon visa de 3 ans. Quoi.
Ouais.
Donc ça m'a permis de pouvoir rester. Là, je me suis dit, ok, même si je pars de Whiskorp, j'ai moyen d'enchaîner sur autre chose et voir ailleurs. Quoi.
Mais à aucun moment, tu t'es dit, tiens, je vais retourner à mon plan initial, c'est-à-dire aller au Canada?
Non, en fait, c'est pas revenu en fait, sur le.
D'accord. Et c'est quoi qui t'a convaincu? C'est
De rester au Japon, tu
vois?
Parce que je venais d'arriver, je commençais à m'investir dans la langue, découvrir le pays, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter en si bon chemin et continuer à faire autre chose arrière. Ouais.
J'imagine aussi que peut-être le niveau de vie, la qualité de vie te plaît aussi.
Oui, bien sûr aussi, ouais. Clairement. Ouais.
Je vois.
C'est un pays où il fait bon vivre aussi. Hein. Il faut qu'on se le dise, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais on n'arrête pas de le dire.
Oui, clairement. Mais ouais, ouais.
Alors, après, Whiskorp, qu'est-ce qui se passe? Tu changes de boîte?
Ouais, alors.
Et là, c'est une boîte japonaise.
Ouais.
Donc, ce que je veux dire par japonais, c'est du début de la recherche d'emploi à l'embauche et au moment où tu vas travailler, c'est tout en japonais.
Exactement, ouais.
Alors, ça se passe comment? Quand tu te dis, il faut que je commence à démarcher des boîtes.
Ouais, alors c'était vers 2014, en mars, avril, quelque chose comme ça. Donc, j'allais partir de Whiskorp et donc, du coup, il fallait que je trouve une autre boîte. Mm-hmm. Donc, je suis allé un peu au culot, je suis allé sur LinkedIn en fait, une boîte qui m'intéressait et je suis allé voir, j'ai contacté le CEO directement en japonais. Voilà, j'ai passé mon profil, est-ce que ça vous intéresse, je sais pas quoi. Et du coup, ça s'est plutôt très bien passé. On a eu un échange de mail en japonais, du coup. Donc, c'était vraiment mes premiers échanges professionnels en japonais, en tout cas en mail. Enfin, c'était assez rude au début.
Ouais.
C'est beaucoup de formules à apprendre, à remémoriser. Enfin, c'est très, très mécanique, en fait, mais beaucoup de mémorisation à faire. Quoi.
Qui dit recherche d'emploi dit CV?
Ouais.
Alors, comment ça se passe le CV au Japon?
Alors, t'as un format qui est super classique, qui s'appelle le Lire Kisho. Mm-hmm.
Donc, c'est national, tout le monde a le même. Peu importe ta branche, peu importe ton métier, peu importe ce que tu fais.
Ouais, en fait, après, je sors beaucoup cette réponse, mais ça dépend des boîtes, en fait.
D'accord.
Mais clairement, oui, ce qu'on va te demander, c'est le Lire Kisho. Quoi.
Ouais.
Et t'as un autre document qui s'appelle le Shokumu Kaere Kisho.
D'accord.
Qui est un peu différent du Lire Kisho. C'est vraiment une. en détail en fait ton expérience, chaque expérience et ton historique, une sorte d'historique.
D'accord, donc ouais. Plus proche du CV occidental, quoi.
Exactement, ouais.
D'accord. Et alors, quand tu dois rédiger ton premier CV japonais, est-ce que tu es au courant de ces documents ?
Au tout début, ouais. Ouais. D'accord. En fait, avant que, je pense que tout le monde fait ses recherches avant de partir dans un pays étranger, bien sûr, comment se passe les entretiens, les processus de recrutement.
Et alors là, ça se passe comment dans ta tête ? Ben là, vois le bordel.
Quand je vois le bordel, ouais, je me dis oula. Mais non, ce qui est plutôt cool, c'est que tu as beaucoup de sites bien référencés avec pas mal de qu'on appelle ça de samples en fait.
Ouais.
Documents, donc c'était pas si dur que ça. Bah après, tu dois toujours t'écrire en japonais, ce qui est une autre paire de manches, quoi.
Mais t'as réussi à le faire avant d'avoir un niveau de japonais décent.
Ouais, clairement.
Donc c'est
ouais.
Accessible, quoi. C'est possible.
C'est possible, clairement. Ouais.
Très bien. Est-ce que tu as un JLPT ? Donc je te demande, tu vois, on parle de CV. Le JLPT, c'est la validation, c'est le TOEIC équivalent japonais.
Ouais.
Alors c'est pas que écrit. Et lu, enfin non, c'est même pas écrit du tout, le TOEIC, c'est que des QCM, si je me rappelle bien. Mais ouais. le JLPT, en gros, c'est de la compréhension lue et orale, notamment basée sur les kanji.
Ouais, alors...
Et c'est demandé sur les... souvent, c'est demandé sur les CV. Donc, est-ce que ça, tu l'as ?
Mais moi, je n'ai pas de JLPT, non.
D'accord. Donc on peut trouver un boulot au Japon sans le JLPT.
Ah oui, clairement. Mais après, c'est marrant parce que tu as beaucoup de boîtes, en fait, qui précisent qu'ils veulent un JLPT ou un niveau équivalent à un JLPT, quelque chose comme
ouais.
ça.
Et donc, ils demandent lequel, en général ?
Je pense souvent c'est le JLPT2. Ouais.
Ah d'accord.
C'est JLPT2, c'est un. Ouais,
c'est assez solide hein, le 2 quand même. Hein,
c'est très solide, ouais. Je pense.
C'est chaud quoi.
C'est assez, ouais, enfin je pense qu'avec pas mal de travail et de bachotage, je pense que tu
ouais,
peux.
Ouais, bien sûr.
Mais en fait, je pense que ton niveau de japonais, ça se vérifie à l'entretien en fait. Je pense pas que t'as forcément besoin d'avoir un document qui spécifique, qui dit que tu as un tel niveau de japonais pour prouver que tu parles japonais quoi.
Mais après, toi tu dis que t'as pas le JLPT, mais t'as quand même bachoté, on va pas se mentir. Chez toi, t'as étudié le japonais.
Pas tant que ça au
pas
final.
Pas tant que ça, donc t'as tout fait...
Bien sûr, enfin si, je mentirais de dire que j'ai pas étudié, mais pas tant que ça au final. Quoi.
Mais les kanji, t'as pas pu les apprendre juste en les voyant.
Au final, c'est à force après. Quoi.
Ah ouais.
Tu vois toujours les mêmes mots, tu les mémorises au final. Quoi.
D'accord.
C'est à force de pratique au final, je pense. Et bien d'accord. sûr, j'ai fait aussi mes petites fiches papier. Avec
bien sûr, voilà.
Les kanji, ouais, c'est...
Ce qui t'a pris du temps.
Ce qui prend du temps, ouais. Ouais. Clairement, ouais. Mais je pense que dans n'importe quelle langue... Ça se fait dans la longueur au final, quoi. C'est
pas
dur, mais c'est pas quelque chose que tu peux apprendre forcément un mois. C'est vraiment quelque chose que tu es dans le milieu et ça va rentrer tout seul, quoi.
Et c'est incomparable aussi d'être dans le pays pour le parler. Alors, dans le cas du Japon, malheureusement, vaut mieux être là qu'ailleurs.
Ouais.
Mais je pense que ouais, ça fait une grosse différence d'être là, quoi. Donc, ouais.
Clairement, ouais.
Faut vraiment faire le saut et venir, quoi.
Ouais, clairement, ouais. Et du coup, bien sûr, ouais. Donc, j'ai eu un entretien là-bas. Et c'était donc mon premier entretien en japonais, full japonais devant.
Et alors comment... Donc c'est ton premier entretien et tu l'as eu, tu as eu deux jobs.
Ouais, donc c'était trois entretiens en tout.
Ouais.
Deux et entretiens, pardon.
Comment ça se passe le premier ?
Bah, le premier se passe
J'imagine
plutôt très bien.
J'imagine que c'est le plus difficile parce que c'est là où t'es le plus stressé, tu sais pas à quoi t'attendre.
Exactement, ouais. En fait, dans un entretien japonais, t'as beaucoup de steps en fait. T'as un nombre de choses à respecter.
Ouais. Donc et vas-y, dis-nous, bon, tu commences par la présentation, donc tu te présentes. Tu fais un petit monologue où tu te présentes, quoi. Tu dis qui t'es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, ton expérience.
Exactement, ouais. Donc en gros, dès que tu te poses, les gens, enfin ton interlocuteur va te demander, fais ta présentation, ce qu'on dit en japonais, jiko shokai, la présentation personnelle. Donc c'est un résumé de ton expérience professionnelle, de ton éducation, des projets que tu as fait. Et ensuite, c'est souvent après le jiko shokai, c'est souvent des questions qui viennent justement que tu dois répondre.
Ouais.
Mais le plus difficile à ce moment-là, c'est vraiment le japonais, quoi, au final. À l'époque, j'avais un niveau qui me permettait de m'en sortir, mais c'était tendu, quoi. Vraiment, ouais.
D'accord. Bah, du moment que tu comprends la question, après, tu réponds avec les mots que tu maîtrises, mais bon, c'est le challenge de base, c'est comprendre la question, quoi.
Ouais.
Donc, tu passes les trois entretiens, t'obtiens le job. Et alors, cette boîte, c'était quoi comme profil de boîte ? C'était des jeux, quel genre de jeu ? C'était mobile, c'était console ?
C'était des jeux mobiles, enfin, que mobile au final. Donc, j'ai eu l'occasion de bosser sur un jeu qui était déjà en service, en fait, qui était déjà sorti. Donc, c'était beaucoup de planning
rajouter du contenu.
Pardon ?
C'était rajouter du contenu.
Exactement, c'était beaucoup, ouais. Beaucoup de design de contenu. Donc, c'est des événements, des items, plein de choses comme ça.
D'accord.
Et j'ai eu aussi l'occasion de faire des tout petits prototypes là-bas.
D'accord. Donc, en solo ou...
Ouais, alors en fait, j'étais en solo. On m'a demandé, ok, voilà, donc essaie d'imaginer des jeux très simples sur iOS. Des jeux qui peuvent être en free-to-play, très simples à jouer, tout ça. Donc, j'ai dû pondre une dizaine de concepts différents. Malheureusement, la boîte a disparu, je pense, donc il n'y a rien qui est sorti ou quoi que ce soit.
D'accord.
Donc,
Et tu faisais des protos, ça restait papier ou tu allais jusqu'à l'interaction ?
Non, c'était quasiment que du papier, ouais.
D'accord.
Who's up the next door, living in the haunted mansion?
Better learn my name, cause it's
Ashley. She knows the darkest spells and she brews the meanest potions.
You might be the ingredient I seek.
Don't let yourself be fooled by her innocent demeanor.
You'd better be afraid of the great
Ashley. She doesn't play with dolls and she never combs her hair.
Who has time for girly things like that?
Show her homework.
Everyone knows I'm the greatest
Ashley. You better watch your step or she'll cast a spell on you.
I turn my teacher into a spoon. I'm a friend of my spells and get this too well. I don't have as many friends as you, but I think you're nice and maybe we could be friends. And if you say no, you're toast.
Living in the haunted mansion.
Better learn my name, cause it's
Ashley. Just remember this when you see her on the street.
I'm the coolest girl you'll ever meet. I'm the coolest girl you'll ever meet. I'm the coolest girl you'll ever meet.
Bruce. Next door, living in the haunted mansion.
Better learn my name, cause it's
Ashley. She knows the darkest spells and she brews the meanest potions.
You might be the ingredient I seek.
Don't let yourself be fooled by her innocent demeanor.
You'd better be afraid of the great
Ashley. She doesn't play with dolls and she never combs her hair.
Who has time for girly things like that?
Show her homework.
Everyone knows I'm the greatest
Ashley. You better watch your step or she'll cast a spell on you.
I turn my teacher into a spoon. I'm a friend of my spells and get this too well. I don't have as many friends as you, but I think you're nice and maybe we could be friends. And if you say no, you're toast.
Living in the haunted mansion.
Better learn my name, cause it's
Ashley. Just remember this when you see her on the street.
I'm the coolest girl you'll ever meet. I'm the coolest girl you'll ever meet. I'm the coolest girl you'll ever meet.
Et alors, comment ça s'est passé cette première expérience? J'imagine qu'avec le temps, bah, ça t'a permis de développer ton japonais, t'améliorer, ouais, de gagner en confiance, etc. vis-à-vis de la langue,
ouais,
de développer tes skills en tant que game designer au passage également. Mais les premiers jours, ça se passe comment du coup? Quand il y a des gens qui viennent te donner du travail, qu'on te donne des tâches, qu'on te dit bah, il faut faire ça et t'as peur de pas comprendre. Alors, comment tu l'as vécu?
Bah, c'était très dur. En fait, je me rappelle toujours du souvenir où t'as mon lead qui est arrivé et qui m'a dit voilà, tiens, voici l'Excel des specs du jeu. J'aimerais que tu lises tout et que tu comprennes et que tu fasses un mémo. Et je me rappelle toujours du soir où j'étais à 20h devant mon ordi en train de lire, essayer de lire les kanji. Et c'était horrible.
Vraiment, bah, j'imagine que tu traduisais pas kanji par kanji, tu utilisais des outils pour t'aider à essayer de faire de la traduction. Ouais.
Ouais.
Et du coup, bon, au final, j'imagine que ça s'est bien passé.
Ah oui, ouais, enfin, au début, c'était rude, mais après, ça m'a, bah, comme tu disais, ça m'a permis de pouvoir aiguiser mon japonais. Je pense que c'est vraiment l'expérience où j'ai commencé vraiment à sentir que mon japonais est vraiment solide, en fait.
D'accord.
Ouais, c'était l'expérience en soi, enfin, en termes de game design ou de travail en soi, était pas forcément ultra intéressante, pour être honnête.
Mm-hmm.
Mais ça m'a permis clairement de m'enrichir, en fait, en termes de juste de comprendre comment se passe, comment les choses se passent dans une boîte au Japon.
Après, j'imagine que du point de vue de l'employé, ça peut être assez frustrant parce que tu te dis putain, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à m'exprimer.
Ouais.
Mais il y a toujours cet aspect qu'ils t'ont embauché, donc tu les as pas floués à l'entretien, ils savent à quoi s'attendre.
Ouais.
Donc c'est qu'ils font confiance à ton niveau de japonais. Ils pensent également certainement que tu vas t'améliorer, etc. Donc c'est. Mais bon, c'est sûr que pendant le moment présent que tu le vis, bah tu te dis ouais, c'est un peu frustrant. J'aimerais être à un autre niveau pour pouvoir vraiment m'exprimer pleinement, quoi.
Ouais. En fait, je pense que dans la tête d'un employeur japonais, en fait, quand ils embauchent un gaijin, du coup, un étranger, ils doivent toujours se dire qu'est-ce que la personne apporte, ce qu'un japonais n'a pas, en fait.
Il y a aussi ce fait qui semble évident, mais c'est qu'un étranger apportera toujours des choses qu'un japonais ne peut pas apporter. Il y a une expérience qui est différente, tu ne vis pas dans ton pays, aussi il y a une connaissance et une culture du jeu vidéo, du marché occidental. Donc, c'est peut-être aussi ce genre de choses qui sont recherchées.
Clairement, oui.
Donc, Dango, c'est une expérience qui a duré combien de temps en tout ?
Une petite année.
Donc petite là, tu es déjà plus de 2 ans et demi d'expérience au Japon.
Ouais.
Ce n'est pas rien. Plus, on va rajouter de l'expérience que tu avais en alternance. Donc, tu arrives déjà avec quelques années d'expérience sur le marché. Donc, qu'est-ce qui te fait quitter Dango ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fermé ? Est-ce que c'est parce que tu t'es fait mettre dehors ? Comment ça se passe ?
En fait, non, la boîte allait un peu mal à ce moment-là. Donc, moi, j'ai senti un peu le roussi. Donc, j'ai essayé de partir ailleurs.
D'accord. Ouais. Je vois. Donc là, tu te dis, bon, c'est le moment de changer. Comment est-ce qu'on... C'était quoi ton approche ? Est-ce que tu as fait du networking ? Est-ce que tu as regardé les annonces sur Internet ? Est-ce que tu as démarché des agents ? Comment ça se passe ?
À ce moment-là, ouais, c'était beaucoup de recherches sur LinkedIn, des agents, tout ça. Donc, à ce moment-là, je voulais vraiment essayer de faire ce que je voulais faire, en fait.
C'est-à-dire ?
Parce que jusqu'à maintenant, c'était beaucoup de free-to-play, de jeux mobiles, tout ça. C'est pas forcément ce qui te passionne le plus. Et je pense que c'est le cas pour toi aussi. Et, de faire des jeux consoles, des trucs qui te passionnent vraiment.
D'accord. Après ton expérience chez Dango, c'est à ce moment-là que tu vas avoir ta première expérience dans le jeu, ce qu'on appelle retail, donc le jeu console, dans des sociétés japonaises. Tu vas changer de boîte à plusieurs reprises et aujourd'hui encore, tu es game designer, tu fais du jeu console et c'est ce que tu désirais. Donc félicitations, hein, c'est bien, c'est un achievement en soi.
Merci beaucoup. Ouais.
Je vais revenir sur ce que c'est que travailler généralement au Japon. Donc, après Dango, tu as eu, tu avais, j'imagine, beaucoup plus de confiance vis-à-vis de ton niveau de japonais. Donc, tout ce qui était entretien, tout ce qui était travail au jour le jour, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, tu as certainement dû développer ton savoir-faire du jeu vidéo. Donc, c'est apprentissage de nouveaux moteurs. Tu as dû découvrir Unity, certainement. On verra plus tard que tu as découvert Unreal 4, notamment à travers un projet qui était personnel.
Ouais.
Mais alors, dis-moi... Comment est-ce que tu as vécu ce contact avec... Ça va certainement revenir sur Dango, mais je dirais en général, en fait, comment a été ton expérience du monde du travail japonais ? Donc, je dis ça dans le sens où c'est internationalement connu. Il y a beaucoup de clichés par rapport au monde du travail japonais. Donc, les heures sup, les salaryman, aller boire des coups tous les soirs avec ton boss parce que c'est culturel. Déjà, j'imagine, tu ne vas pas qu'à travailler en costume.
Ouais, alors... C'est marrant, comme tu le dis, il y a beaucoup de clichés en fait sur le travail au Japon généralement. Bah, tu l'as dit, du coup, les heures supplémentaires, le fait d'aller boire avec tes collègues, tout ça. Et au final,
c'est vrai ou c'est faux ?
Alors, pas vraiment en fait. En fait, je pense que ça dépend vraiment des boîtes, tout ça. Mais dans le jeu vidéo, c'est bien sûr, tu as les heures supplémentaires. Mais personnellement, dans toutes mes expériences, j'ai pas eu vraiment de pression de mes boss en fait. En mode, il fait plein d'heures supplémentaires, faut faire des heures, faut que tu restes tard. C'est toujours, au final, ça revient, je pense, c'est pas en Occident aussi, c'est à toi de gérer ta charge de travail et de pouvoir partir tôt en gérant bien ton temps.
J'ai eu dans le podcast, on a eu FX, on a eu Julien, et tous, ils ont à peu près dit la même chose, c'est-à-dire qu'en tant qu'étranger, on n'a pas les mêmes attentes sur toi. Donc en fait, un étranger qui va vers 16 heures, ni nécessairement plus, bon, moins, t'as pas vraiment le droit, on va pas vraiment lui dire quoi que ce soit. parce que c'est pas culturellement, ben on comprend, il y a pas cette attente autour de l'étranger. Est-ce que tu les rejoins par rapport à ça?
Ouais, c'est assez vrai. Après, ça dépend si t'as beaucoup d'étrangers dans la boîte aussi.
Ouais.
Si t'es seul étranger, je pense que t'as ce qu'on appelle la gaijin card en fait,
ouais.
qui te permet justement justement d'éviter les heures supplémentaires à fond tout ça. Mais ouais, c'est une question de proportion, je pense. Mais ouais. Moi, clairement. Ouais, c'est vrai qu'au final, je pense qu'il y a une grosse différence en fait en étant étranger ou pas. Et ouais.
D'accord. Et est-ce que tu as vu des différences notables, par exemple, quand tu travaillais à... pardon, j'ai oublié le nom, c'était Tetraedge, qui est ton expérience française. Est-ce que tu as vu des différences avec l'Occident? Par exemple, tu vois, est-ce qu'au Japon, il y a plus de meetings? Est-ce que les meetings sont, par exemple, beaucoup plus longs, interminables? Est-ce que les process sont vraiment... différent ou est-ce ouais. que ça se ressemble au niveau de ce qu'on peut trouver dans une boîte de jeux vidéo?
En fait, comme je te disais, tout à l'heure, c'est que j'ai pas réellement d'éléments de comparaison dans le ouais. sens où j'ai pas une expérience super lourde en fait en France du coup. Mais il y a toujours le cliché même au Japon, c'est les. Moi, je sais pas si ce cliché existe en Occident
ouais.
par rapport au Japon, mais les meetings interminables ouais. tout ça. Et moi, tout ça, j'ai pas l'impression d'avoir connu ça en fait au Japon. Au Japon, t'as souvent un seul meeting en fait pendant ouais. la journée, genre ce qu'on appelle le meeting après le lunch en fait, où chaque personne dit ce qu'il a fait aujourd'hui et ce qu'il compte faire.
Donc c'est un équivalent du stand-up version Scrum quoi. C'est,
exactement. Ouais.
Chacun dit ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire, c'est quoi les goals, est-ce qu'il y a des choses qui nous bloquent.
Ouais, clairement ouais.
Okay.
Mais ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mais je pense pas qu'il y a vraiment de grosses différences en fait.
D'accord.
En termes de travail pur. Ouais.
Et est-ce que l'environnement de travail par exemple, est-ce que tu trouves que l'environnement de travail japonais est plus silencieux? Pardon, c'est une question bizarre, hein, mais est-ce que tu ouais. trouves que l'environnement de travail est plus silencieux qu'en Occident?
C'est plutôt silencieux. Enfin, moi, dans toutes les. C'est, en fait, je pense que ça dépend aussi de la taille de ton équipe, en fait.
Ouais.
Je me rappelle que dans une boîte dans laquelle j'ai bossé il y a encore peu, c'est relativement une petite équipe.
Ouais.
Donc, tu as beaucoup d'échanges, c'est très organique. Enfin, les gens parlent entre eux. Il
ouais.
y a beaucoup de petits meetings improvisés, en fait, au milieu des bureaux. Donc justement, ça fait du bruit. Mais dans ma boîte actuelle, qui est relativement assez grosse, c'est relativement silencieux, je pense. C'est plus standardisé, en fait.
Ah ouais,
les meetings. Ouais,
d'accord.
C'est,
Parce que je dirais que c'est plutôt l'inverse, en fait, en Occident. Du moins, ouais. sur mon expérience, c'est au plus la boîte est grosse, au plus il y a de bruit.
Ok, ouais, bah ouais. Ouais.
Et au plus c'est petit, au plus il y a, entre guillemets, ce respect, entre guillemets. Je dis pas que les Japonais sont irrespectueux, loin de là. Mais... du coup, comme tu es moins nombreux, dès qu'une conversation va être entendue de tous, vu qu'on est dans un plus petit local, on est moins nombreux. Donc, c'est différent. Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences notables dans la hiérarchie? Genre, comment est-ce qu'un projet est mené? En Occident, par exemple, c'est quelque chose que je dis assez souvent, tu vois, c'est qu'il y a des leads et des directeurs à la tête de chaque département. Donc, tu as genre, le directeur technique, directeur artistique, directeur créatif. Alors qu'au Japon, tu vois, j'ai plus l'impression que tu as un... directeur tout court, qui est le directeur de l'œuvre, comme ça serait au cinéma, comme Yoko Taro a pu être directeur de Nier. Et en fait, c'est pyramidal par rapport à lui, et il a le droit de vue de mort sur n'importe quoi, en fait. Est-ce que ça a été ton expérience, ou tu dirais qu'en fait, non, peut-être ça s'est un petit peu occidentalisé aussi?
Souvent, en tout cas, de mon expérience au Japon, t'as souvent le directeur justement qui donne les directions à suivre, les feedbacks sur le projet ou tout ça. Et justement, comme tu dis, c'est pyramidal, il fait descendre aux leads de chaque département, et les leads ensuite font descendre aux personnes qui doivent. Aux petites mains du projet, j'ai envie de dire.
Ouais.
Donc, c'est... Ouais.
Je vois. Et est-ce qu'au Japon, l'esprit d'initiative, c'est bien vu?
Ouais, c'est une très bonne question.
Venant d'un étranger, en fait. Ou est-ce que c'est assez mal vu que tu mettes les pieds dans le plat là où tu n'es pas attendu?
Ça dépend, mais de mon expérience, c'est quelque chose qui est très bien vu à chaque fois.
D'accord.
Il ouais, faut juste savoir quoi dire et faire attention.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Est-ce que tu dirais que... Au Japon, c'est difficile de trouver du travail. Alors, je dis au Japon en général, à Tokyo du moins.
Il y a beaucoup de boîtes à Tokyo, en fait. C'est, si je devais comparer à Paris, il y a vraiment, je ne sais pas combien de centaines, peut-être pas autant, mais beaucoup, beaucoup de boîtes au Japon. Bah, tu as tout, tu as vraiment du consumer, du retail, tu as ouais. du mobile, tout ça. Et si tu as un niveau de japonais qui est correct, je pense que c'est très facile de trouver du boulot, quoi. Même sans ouais. forcément être très très bon japonais. Ça dépend en fait le travail que tu cherches. Enfin, en l'occurrence, en game design, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Ouais.
Et si ton niveau de japonais est pas très bon, c'est limité?
T'as toujours des boîtes qui embauchent tout ça, mais je pense que ça dépend vraiment des boîtes et s'ils sont d'accord pour justement faire des concessions et,
ouais,
et t'embaucher.
Et au niveau des postes techniques, peut-être, je sais pas. En game design, bon, le game design, ça demande beaucoup de communication, mais peut-être au niveau d'un poste un peu plus technique, peut-être la langue est moins nécessaire, je dirais.
Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, dans des boîtes comme From Software, ouais, il y a beaucoup de postes qui sont ouverts à des personnes qui ne peuvent pas vraiment parler japonais. Mm-hmm. Comme tu disais, des profils très techniques, mm-hmm, tech art ou programmeur.
Ouais.
Alors comme tu dis que le game design justement c'est un boulot qui nécessite un bon niveau de japonais clairement.
Ouais.
Après encore une fois je pense que ça dépend vraiment des boîtes. Par exemple, moi je suis rentré chez Wiscorp sans avoir un niveau de japonais. Je pourrais même pas dire un faible niveau de japonais parce que je pouvais quasiment pas parler japonais à ce moment-là.
Ouais.
Et ils étaient d'accord, mais après voilà, ça dépend vraiment des boîtes et je pense.
Mais ouais, est-ce que tu dirais aujourd'hui que du moins si on veut faire une généralité, la place de l'étranger dans les sociétés de jeux vidéo japonaises, c'est plus sur les postes techniques que créatifs?
Il y a beaucoup de cas comme ça, ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers justement qui occupent beaucoup de postes techniques, comme tu dis. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de game designers étrangers quand même. Enfin, quand
tu trouves?
Ah oui, clairement.
Mais ouais, est-ce que, par exemple, tu vois, level design, moi je mettrais plus ça dans un côté technique.
Ah ouais?
Parce que c'est dans le level design, c'est dans l'exécution et peut-être du point de vue d'une équipe, le mec il se dit bah, le mec il a le savoir technique, il sait utiliser le moteur, tout ce qui est aspect créatif bah, a priori il le sait vu que c'est son métier, donc il n'y a qu'à le lancer, lui dire voilà, bah, voici les directives et fais le niveau.
Ouais.
Alors que game designer ça demande peut-être beaucoup plus de communication. Game designer c'est, après peut-être je me trompe tu vois, mais game designer il y a peut-être aussi plus une part du métier qui nécessite de convaincre les gens, et ça c'est un niveau de langue vraiment au-dessus tu vois. Le JLPT1 ça va peut-être te permettre de lire 4000 kanji, mais d'une part ça veut pas dire que tu seras bon en conversation, mais ça ne va pas dire que tu seras convaincre les gens.
Ouais. Alors, c'est marrant que tu parles de level design parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai remarqué dans une nouvelle expérience ici, que c'est une notion qui est encore très récente au Japon, en fait. Il y a encore pas si longtemps que ça, tu avais beaucoup de, en fait, des artistes en fait, qui faisaient le level design. Le level design n'était pas forcément reconnu en tant que métier ouais, tel quel, en fait.
Mm-hmm.
Et du coup, c'est marrant parce que maintenant, tu as l'émergence de nouveaux moteurs.
Ouais.
Justement demande un nouveau corps de métier aussi.
Ouais.
Et donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boîtes, enfin c'est encore assez récent je pense, il y a beaucoup de boîtes qui commencent à s'ouvrir à ça.
Et des moteurs qui viennent d'Occident.
Exactement. Donc, ouais. Du coup bah t'as une certaine recherche aussi d'étrangers qui ont un bon niveau technique comme tu dis sur les moteurs. Ouais.
Bien sûr. Et après c'est ce que tu dis, je vais rebondir sur ce que tu disais, ouais, c'est vrai qu'au Japon bah, tout le monde est planeur en fait. Il ouais, y a pas de combat designer, il y a pas de car handling designer, il y a pas de, tu vois, il y a pas toutes ces cette dichotomie des différentes spécialités dans le corps de métier planeur, même si une fois que tu es dans une équipe bah tu t'en rends compte en fait, tu le vois que bah un tel est spécialisé dans un truc, un tel est spécialisé dans un truc. C'est assez intéressant et j'ai l'impression aussi peut-être qu'ils commencent doucement à s'orienter ouais vers cette dissection en fait, à faire la différence entre les profils, à essayer de mettre les gens dans leur spécialité.
Donc je pense que ça dépend vraiment de la taille des équipes.
Ouais.
Moins tu as designer, moins tu auras de différenciation entre eux, je pense. Mais moi, dans mes plus récentes expériences, tu avais beaucoup de différenciation entre différents types de planeurs en fait.
Ouais.
Donc, des planeurs qui s'occupent des ennemis, planeurs qui s'occupent du player.
Mais c'est-à-dire, même dans leur titre, c'était annoncé.
En fait, c'est plus une sorte de, enfin, des sortes de départements en fait.
D'accord.
Mais ouais, les titres, non, je pense que toujours appelé planeur. Quoi. Mais,
d'accord. Ouais. Je vois. Est-ce que tu as dû faire face à des gros challenges, je veux dire, en général, tu n'as pas. Tu vois, ça reste global en fait. Est-ce que quand tu es arrivé au Japon et tu te dis tiens, je vais me lancer dans le jeu vidéo, il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas qui ont été vraiment difficiles à surmonter?
À part le japonais?
Bah, tu l'as surmonté, donc ça, ouais, ça va. je prends un raccourci, hein, mais est-ce qu'il y a des choses, tu t'es dit putain, je m'attendais pas à ça quoi. Peut-être tu pourrais me dire le japonais en fait. Peut-être le japonais, tu pensais que ça serait plus simple, que tu apprendrais plus vite, que tu arriverais à une vitesse de croisière plus rapidement, tu vois, je sais pas.
Ouais, alors en fait, premièrement, le japonais, bien sûr. Ça, c'était quelque chose que je devais surmonter au départ, qui était super difficile, comme beaucoup de personnes dans ma position. Mais une autre chose, c'est aussi les éditeurs de jeux, enfin les moteurs, par exemple.
Ouais.
Donc, un de mes projets, c'était sur un moteur très célèbre, l'Unreal, quoi, du coup.
Ouais.
Et c'est justement l'apprentissage d'un nouveau moteur, de nouvelles méthodes de programmation, de script, tout ça. Et je pense, en tout cas, dans ma période au Japon, il y a une sorte de switch, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas. Le passage un peu plus technique en fait. Donc.
Mais est-ce que là on t'impose de mettre le moteur en japonais ou tu peux le mettre en anglais si tu le souhaites?
Sur Unreal par exemple tu veux dire? Sur Unreal ou
N'importe.
Oh non, non, ça c'est quelque chose qui est... Tu fais comme tu veux en fait quoi.
D'accord. Il ouais. y a pas personne qui dit ah, non mais je peux, si tu le mets pas en japonais je peux pas t'aider tu vois. Il y a pas y a personne
ah,
qui
non,
va
non,
dire
non,
ça.
Non, clairement pas,
bon
bah.
Ça va déjà.
Ouais. Non non.
T'as mais... la chance que le moteur il soit tu comprends ce que tu regardes quoi.
Bah, c'est un gros avantage du coup vu que le moteur du coup vient de l'Occident donc.
Ouais. Ouais. Et tu peux il est documenté donc tu peux.
Ouais. Clairement.
Plus ou moins te débrouiller. Est-ce que à l'inverse il y a des choses que tu pensais que ça allait être difficile et ça a été une bonne surprise ça a été plutôt simple.
Ouais,
le japonais.
Ouais. Bah, je dirais la rédaction de documents au final simplement.
Ah ouais.
Ouais. En fait, en Occident, t'as la. Bah, je pense que c'est quelque chose qui disparaît, mais t'as la
Game Doc, ouais.
Le GDD.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est une notion qui disparaît petit
la
à
Bible,
petit.
Ouais.
La Bible, ouais. La Bible du game design, ouais. Mais c'est quelque chose qui disparaît, non? Enfin, je pense que c'est quelque chose qui. Au profit, enfin, je veux dire, au lieu du GDD, plutôt avoir des documents qui sont très compacts, très courts. Parce qu'au final, les documents, c'est pas toi qui vas les lire, mais c'est les programmeurs, tout ça. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui doit être plus. Donc, en fait, je pense que. C'est la formalisation en fait qui pour moi je pensais que ça allait être super difficile parce qu'un GDD en japonais c'est pas la joie quoi et justement bah, t'as beaucoup de boîtes en tout cas au Japon qui te demandent de garder les choses le plus compact possible plus d'images que de texte tu vois.
Ah ouais.
Ouais et du coup bah, moi c'est quelque chose que j'ai appris qui m'a suivi aussi enfin le fait aussi de dessiner beaucoup.
D'accord.
Faire beaucoup de sketch
ça. Ah c'est cool.
Bah, en fait c'est quelque chose aussi qui va t'aider à contourner la langue aussi.
D'accord.
De rendre les choses visuelles qui permet justement de te faire comprendre.
Ouais. Et du coup, ça se passe sur Excel.
Ouais, c'est. Ouais. Mais en fait, pas tant que ça. En fait, bah, Excel est beaucoup utilisé sur bah, tu veux faire un listing de choses ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a certaines boîtes où c'était vraiment que du Excel, quoi.
Ouais.
Ouais, clairement. Ouais. Ils ont une sorte de.
Mais c'est même pas sur pour utiliser les fonctionnalités d'Excel, en fait. C'est pas pour faire des formules de ouf. C'est juste pour utiliser
juste
Excel.
Pour des semaines, ouais. Ouais. Bah, par exemple, il y avait beaucoup de boîtes, enfin, dans mes expériences, il y a beaucoup de boîtes qui utilisaient les Excel pour faire des wireframes, enfin, tu sais, des design interfaces, tout ça.
Ah, bien sûr.
Directement sur Excel. Pour, ouais. Alors que bah, t'as des softs qui sont faits pour et bah, des flows ou quoi que ce soit.
Je et, vois.
Ouais.
Et alors, comment ça s'est passé ton premier game design document en japonais?
Bah, plutôt très bien, en fait.
Bah, t'as pas eu de retour, genre, ah, mais ça veut rien dire, tu en parles
les
mauvais mots.
Ah, c'est bien sûr, ouais.
Ah, t'en as eu.
Ouais.
Mais c'était plus dans un état d'esprit pour t'aider que pour te juger.
Bien sûr, clairement. Bah, t'as le japonais qui était toujours à corriger au début, mais
ouais.
C'était moins difficile que je le pensais, clairement. Quoi, parce que ça reste très compact et j'essayais de faire tout ce que je pouvais pour que ça soit le plus lisible et le plus facile à comprendre, en fait.
D'accord. Ouais. Alors, je me répète un peu, mais c'est posé d'une façon différente, si tu veux. Ouais. Est-ce que y a un aspect particulier du game design que les Japonais cherchent chez les étrangers? Je dis ça dans le sens où on connaît le Japon pour ses jeux très créatifs. En fait, c'est l'aspect créatif des jeux japonais qui moi, en tout cas, personnellement, quand je joue au japonais, c'est ce que je cherche. C'est l'aspect créatif, pas nécessairement l'aspect technique. C'est la façon de raconter des histoires, c'est la vision du gameplay qui est différente, qu'ils vont essayer de se concentrer sur certaines features et pas sur 50 features. Du coup, c'est vraiment en contraste avec l'Occident, en fait, tout ça. Tu vois, c'est quand tu compares des jeux japonais avec des jeux occidentaux, c'est vraiment une différence.
Bah, du coup, de mon expérience, c'est un peu difficile à répondre dans le sens où j'ai fait les deux. Mais j'avais des expériences qui me demandaient, des jobs qui me demandaient d'être très créatif en termes de, bah, d'idées ou
ouais.
Que ce soit. Et sinon, des profils qui étaient plus axés techniques, en fait.
Ouais.
Donc, la bonne maîtrise d'un moteur, d'un langage de script et level design, en fait.
D'accord. Et lorsque tu l'as fait, est-ce que... il n'y a pas eu de problème, quoi. Tes idées, elles ont été appréciées, elles ont été accueillies.
La majeure partie du temps, ouais.
Ouais. Ah bah, c'est cool.
Ouais.
Très bien. Et tu dirais que au Japon, les procédés de création, donc là, je parle vraiment en dehors de tout ce qui est game design. Tu vois, je parle en général, je parle genre les pipelines, les méthodes, les process. Est-ce que tu dirais que c'est similaire à ce que nous, à la vision qu'on a en Occident, c'est-à-dire je fais ma tâche qui va être validée par quelqu'un, qui va être review, après il y a des retours, il y a des itérations. Est-ce que les procédés sont à peu près les mêmes?
C'est à peu près les mêmes, en fait, dans les grandes lignes. Ouais. Ouais. Après, bah, en termes de level design, je pense que c'est pas en Occident. J'ai pas vraiment d'expérience. Je console en Occident, enfin, j'en ai pas eu
ouais,
tout.
Un peu, ouais.
Mais par exemple, quand tu fais ton level design, tu fais ton greyboxing, ton level, ton niveau en...
Tout en gris avec des boîtes.
En géométrie, ouais. En géométrie très simple. T'as une review de gameplay, en fait.
Ouais. Et après, t'itères et c'est par couche, quoi.
Et après, bah, quand c'est OK, bah, t'as les artistes qui se passent derrière pour poser les assets, tout ça. Je pense que c'est des process qui se ressemblent beaucoup à l'Occident, je pense.
Ouais.
Bah, je pense que tu peux valider, j'imagine, en...
Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est juste que moi, de mon point de vue, c'est dur à dire parce que je ne suis pas là depuis longtemps, mais j'entends beaucoup dire que bah, le Japon s'occidentalise de plus en plus, en fait.
Bah, je pense que c'est le cas, ouais, clairement. Ouais.
Déjà, sur les moteurs, tu vois, c'est...
Ouais.
Et le moteur, c'est un petit peu la base, la fondation de ton projet, quoi.
Bien sûr, ouais.
C'est ce qui va établir à peu près tous les process et beaucoup de choses qui vont couler de ça.
Ouais.
Eh bien, on va maintenant enchaîner sur un autre sujet.
Ouais.
Qui est très différent et j'imagine, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire que c'est sans lien avec le Japon, mais je pense qu'au contraire, vu que ça s'est passé au Japon, que c'est fondé au Japon, que tu l'as fait au Japon, il y a au contraire beaucoup de choses dont le Japon auxquelles ont contribué par rapport à ce projet. C'est ton projet personnel qui s'appelle Grip.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux présenter ce projet?
Ouais,
c'est quoi comme jeu? C'est quoi l'idée?
Alors, bah, Grip, c'est un jeu, un first person adventure game.
Ouais.
Un jeu d'aventure à la première personne. Donc, développé sur Unreal Engine 4.
Ouais.
Donc, c'est un projet que j'avais commencé il y a maintenant un an et demi de ça, en fait, sur du temps libre. En fait, ma première motivation, c'était apprendre le Unreal, en fait, Unreal Engine 4, que j'avais utilisé dans un cadre professionnel. Mais du coup, vu que j'avais vraiment aimé le moteur, je me suis dit, OK, bon, bah, je vais essayer de faire mon truc à côté.
Mm-hmm.
J'ai toujours voulu essayer de faire un jeu à la première personne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer.
Ouais.
Mes inspirations pour tout ce qui est au niveau de la structure, bah, c'est des jeux comme Journey.
Ouais.
Donc, une expérience très linéaire, un jeu qui peut se jouer en one shot, en fait.
Ouais.
Vraiment que tu peux jouer en un coup, en 2-3 heures. Enfin, c'est un peu mes ambitions pour ce projet.
Ouais.
Et ouais, donc du coup, pour te parler du jeu, en fait, de mécanique.
Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans le jeu? Qu'est-ce que tu peux faire?
Bah, du coup, bah, t'es un personnage donc, qui peut bouger, sauter, et, voilà, qui peut se mouvoir dans un espace 3D.
Ouais.
Et t'as une mécanique qui est donc la mécanique principale du jeu, c'est une sorte de grappin.
Mm-hmm. D'où le nom du jeu, hein.
D'où le nom du jeu, ouais. Et donc du coup c'est la mécanique principale du jeu et du coup c'est un mélange de plateforme et d'exploration. Donc tu utilises ton grappin pour explorer le monde du jeu.
Donc c'est pas une vision du grappin comme on en aurait, genre je te dis ah dans mon jeu il y a un grappin. C'est vraiment beaucoup plus dynamique, beaucoup plus orienté action rapide et même j'ai envie de dire un peu arcade.
Ouais, mais y a beaucoup de plateformes justement comme tu dis, beaucoup d'action pure. Mais j'essaie vraiment d'essayer d'axer une bonne partie au niveau de l'exploration en fait.
Mm-hmm.
De pouvoir...
Mais c'est des environnements très gros. C'est, avec ton grip, tu vas traverser des longues distances très vite. Donc ça donne le tout. Ça dynamise vachement le gameplay, en fait.
Ouais. En fait, j'essaie d'avoir un jeu très, très linéaire dans sa structure.
Ouais.
De pouvoir avoir des effets wow un peu.
Ouais, bien sûr.
Liés à la vitesse et à l'utilisation du grip.
Ouais.
Mais d'essayer un peu de garder un peu une sorte d'aspect ouvert un peu.
Ouais.
Genre justement pour favoriser l'exploration, que le joueur puisse se balader et découvrir des choses. Enfin, c'est un peu le...
Et comme c'est un jeu d'aventure, t'as dit, donc c'est ce qui guide l'aventure, c'est qu'il y a une trame narrative derrière.
Ouais.
Donc c'est ça qui te motive, en fait. C'est,
bien sûr, ouais.
Il y a quelque chose à découvrir.
Ouais.
Tu explores, on te fait comprendre qu'il y a des choses à trouver et tu es guidé et motivé par ça, par la découverte.
Ouais. Vraiment, ouais. En fait, juste pour en parler très rapidement, en fait, ton grip, en fait, ton grappin est animé, en fait.
Mm-hmm.
Donc, il a une âme et peut te parler. Enfin, la grosse différence, ça serait dans Skyward Sword avec l'épée de Link qui peut te parler.
Ouais.
C'est un peu une sorte de référence, on va dire.
Bien sûr.
Tout ce grip, tu dois le ramener au sommet d'une montagne très loin dans le...
Ce qui fait sens, ouais, tu montes.
Ouais, donc, du coup, c'est ton objectif principal du jeu, ce qui te guide, en fait, jusqu'à la fin, quoi.
Mm-hmm. Et alors, c'est quoi la genèse du projet? C'est quoi donc, tu as dit ouais, que tu voulais essayer de faire un jeu d'aventure, mais comment est-ce qu'on se dit j'ai envie de, en plus de mon travail toujours qui est de faire des jeux, j'ai envie de faire mon jeu. Est-ce que c'était quoi la motivation? Est-ce que c'était j'ai envie d'apprendre d'Unreal 4? Est-ce que c'était non, mais j'ai envie de faire mon propre jeu, j'ai envie de m'exprimer créativement?
Mais c'est un peu des deux, en fait, parce que comme tu dis, mon apprentissage d'Unreal, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé. Mais j'ai toujours aimé faire des petits side projects à côté. Des petits projets à part, j'ai toujours voulu faire un jeu à première personne. Je suis un grand fan de Metroid Prime, tout ça, enfin, parmi d'autres.
Ouais.
Du coup, j'avais une idée, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais essayer de faire ça sur Unreal et puis voir ce que ça donne. Et surtout que Unreal, ça te permet, enfin, ça donne des outils en fait pour des non-programmeurs pour essayer de faire des choses.
Bien sûr, ouais.
Bah, les blueprints, du coup, en l'occurrence.
Tout ce qui est code visuel, on va dire.
Exactement, ouais, du code visuel.
Avec les petites boîtes que tu connectes.
Exactement, ouais. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Au début, j'ai vraiment essayé de faire une petite démo, voir ce que ça donne. J'ai vu que la démo avait du potentiel. J'ai voulu continuer sur la lancée. Essayer de faire quelque chose de plus polish et un niveau terminé.
Et donc, tu as tout fait là jusqu'à présent, tu as tout fait tout seul?
Pas tout seul, non, ça serait mentir de dire que j'ai fait tout seul. Bon, y a beaucoup pas mal d'assets 3D qui viennent du marketplace, tout ça.
Ouais.
Et des sons que j'ai fait un peu tout seul. Il y, y a un pote qui a fait pas mal de musique aussi.
Mm-hmm. D'accord.
Donc ouais, c'est en grosse partie, ouais, c'est vraiment, je suis vraiment solo sur ce projet. Ouais.
Donc là tu as dit qu'il y a combien de, il y a le contenu là, ça représente quoi à peu près, il y a combien d'heures jouables?
Ouais, je dirais si tu fais tout, t'en as pour 1h30, 2h.
D'accord.
Peut-être un peu plus, ouais.
D'accord. Alors c'est quoi là ton but avec ce projet?
C'est une très bonne question parce que j'en ai aucune idée.
T'en as aucune idée, d'accord. Mais là, est-ce que t'aimerais finir? Est-ce que t'aimerais arriver te dire bon ben, est-ce que je peux, tu te dis je polis ce que j'ai et je finis l'aventure là-dessus, ou est-ce que tu te dis bon ben, je rajoute un peu de contenu, ça fait une expérience de 3 heures, c'est quoi, qu'est-ce qui te motive?
En fait, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est avoir justement une expérience complète, mm-hmm. qui est même très courte, quelque chose qui est finissable en fait, avec un début et une fin. Mm-hmm. Donc, là, en ce moment, j'essaie de polish un peu le jeu, d'essayer de rajouter des choses, essayer de corriger certains bugs, tout ça. Et c'est vrai que j'adorerais pouvoir sortir quelque chose. Quoi.
Ouais. Après, on dit sortir, pas à des fins commerciales, j'imagine.
Non, clairement, ouais, non, je pense pas, non.
D'accord. Donc, c'est vraiment juste rendre dispo gratuitement sur une plateforme Itch.io, par exemple. Et,
ouais.
Permettre aux gens de télécharger, de te faire des retours, voilà, c'est...
Exactement. Bah, à court terme, j'aimerais bien sortir une démo.
Ouais.
Donc, bon, on peut parler de l'événement, du coup.
Ah, bien sûr, ouais. Tu as fait le Busan Indie Game, il me semble. Indie Connect, d'accord. Ouais. Donc, c'était un événement de jeux indépendants à Busan, en Corée du Sud. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Alors que déjà, comment est-ce que ton jeu a été sélectionné?
En fait, au début, je me suis dit, je vais essayer de poster, en fait, de soumettre mon jeu.
Ouais.
Parce que ça donne une certaine motivation, en fait, dans le sens où ça te pose une
milestone. Ça te donne des deadlines, bien sûr. Ouais.
Exactement, en disant, OK, bon, à ce moment-là, il faut que je livre une version pour cet event. Et ça s'est plutôt super bien passé, donc j'ai eu la chance d'être sélectionné.
Mm-hmm.
Donc, c'était en septembre dernier. C'était deux, trois jours. Donc, ouais. À Busan, en Corée.
Et, donc, c'était intense, super. J'imagine, où les gens se sont enchaînés sur ton stand à jouer au jeu. Toi, ouais. C'était une espèce de playtest réel. Ouais. Hein. Les gens, ils te connaissent pas, tu les connais pas. J'imagine que pour certains, c'était même peut-être impossible de parler parce qu'ils parlaient coréen et toi, tu parles pas coréen.
Moi, j'avais fait la grosse erreur de pas avoir le jeu disponible en coréen, du coup.
Ah ouais, d'accord.
Donc, t'as pas énormément de texte. Bon, si, t'as quand même du texte, en fait, pour t'y as joué, donc je pense que tu peux...
Bien sûr, ouais.
Et c'était, comme tu dis, c'était une grosse session de playtest, en fait, parce que personne n'avait... Enfin, j'avais une petite session de playtest avant l'événement.
Ouais.
Qui m'a permis d'avoir quelques feedbacks, mais c'était un peu flippant parce que c'est la première fois que le jeu était accessible au public. Et du coup, je me suis dit, bon, on va voir ce que les gens vont penser. Et puis, s'il y a des gens qui aiment, ça va peut-être me motiver pour faire quelque chose d'autre derrière aussi, ouais.
D'accord. Et ça s'est bien passé?
Ça s'est super bien passé,
ouais. Donc, les retours, ça donnait quoi?
Il y avait des retours très positifs, un peu moins positifs. Enfin, t'avais un peu de tout, mais globalement, c'était très positif.
D'accord.
Et en fait, ça m'a plutôt motivé à continuer, en fait, sur cette lancée. Essayer de faire une
version. Ouais. C'est un super reward, hein, d'avoir le retour direct des gens.
Ouais.
D'accord. Et j'imagine que même des gens t'ont demandé ça sort quand? Quand est-ce que je peux jouer? Envoyez-moi une build. Je vous donne mon argent.
Il n'y a pas beaucoup de personnes, mais ouais, non, clairement, il y avait des avis comme ça. Et du coup, ça m'a fait chaud au cœur. Ouais.
Bien sûr.
Et ça m'a motivé, clairement. Ouais.
D'accord. Donc là, aujourd'hui, concrètement, en fait, on ne peut pas jouer au jeu.
Non, pas encore.
À moins de te connaître personnellement.
Ouais. Je peux envoyer une build, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ouais.
Mais disons qu'à terme, ça sera rendu disponible quelque part.
J'espère, ouais.
Alors après, on a tous notre vie professionnelle, hein, ce n'est pas ton activité principale. Donc...
Bien sûr, ouais.
A priori, ça sera quand ça sort. Voilà. Mais tu le sortiras quand tu seras content avec le projet, j'imagine, ce qui est plutôt positif.
Exactement. Ouais. J'espère à court terme. Ouais.
D'accord. On espère aussi, en fait.
Merci, ouais. J'espère. Je croise les doigts très fort. Ouais.
Après, ce n'est pas une expérience perdue. Tu vois. Il y a peut-être des gens qui te disent « Putain, mais non, il faut le vendre, faire des sous, tu as travaillé. » Mais non, ouais. C'est une démo. Au contraire, surtout quand tu es professionnel et que tu travailles dans l'industrie, c'est vachement apprécié d'arriver et de dire « Moi, sur mon temps libre, je fais ça.
Ouais. »
Et les gens, ils peuvent jouer à ce que tu as fait. Déjà, voir une vidéo, c'est super cool. Et être capable d'y jouer, c'est bien. Et surtout que là, c'est un jeu où tu as fait la majorité du truc, quoi. On va dire 90%, voire même plus, toi qui l'as fait.
Ouais.
Tu peux raconter ton expérience d'avoir porté le jeu jusque dans les salons, d'avoir récupéré dire que tu as de l'expérience en user test, c'est quelque chose qui est vachement apprécié, je pense. C'est pareil, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau ici. Voilà, c'est vraiment pas perdu. C'est des choses sur lesquelles tu peux construire. C'est plus que positif, même. C'est même peut-être plus intéressant de faire ça que de le vendre.
Bien sûr, ouais. Mais je pense que. Enfin, ce que Grip m'a surtout apporté, en fait, c'est surtout la connaissance technique, en fait. Donc, le fait de coder sur...
Tout à fait, t'as appris Unreal 4, en fait.
Et du coup, c'est quelque chose que tu peux vraiment réutiliser, en fait. Surtout au Japon,
Voilà.
Plus en plus de boîtes recherchent justement des profils techniques, en fait.
Bien sûr.
Que ce soit Unreal ou Unity ou d'autres moteurs. Tout c'est quelque chose qui a une grosse plus-value, en fait.
Ton expertise sur le moteur, bien sûr. Hein.
Bien sûr.
c'est incomparable avec le mettre en vente et essayer de récupérer de l'argent là-dessus.
Exactement.
Ouais. Surtout que là, tu vas devoir te confronter à d'autres soucis qui sont comment est-ce que je markete mon jeu, sur quelle plateforme, à quel prix. Ensuite, tu as le support client. Ah ouais, mais le jeu, il marche pas chez moi. Ouais, mais ça bug, tout ça. Essayer de gérer un maximum de configuration, tout ça. Là, je pense que tu restes sur un marché que tu connais, ce qui est le marché de l'emploi du retail au Japon. Et tu vas réussir à te vendre, à décrocher un job dans l'expérience que tu as, l'expertise que tu maîtrises, ce qui est beaucoup plus à t'apporter, j'ai envie de dire, quelque part.
Clairement, ouais.
Amine, nous arrivons maintenant dans la dernière partie de cette émission.
Ouais, ouais.
Et je vais te poser quelques questions peut-être plus générales, peut-être plus personnelles.
Okay.
J'aimerais savoir quel genre de joueur tu es. Alors, déjà, tu vois, quand on est game designer, c'est certain, tu vois, on est toujours dans l'analyse, on est toujours dans la consommation, tu vois, on doit savoir c'est quoi les derniers jeux, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les dernières tendances, on lit les news, on joue, on est curieux. Mais alors toi, en tant que joueur, tu vois, genre on met ça sur le côté, c'est quoi les jeux qui toi te font kiffer ? Donc tu nous as cité Metroid Prime, mais en général, tu te décrirais comment ? C'est quoi les jeux qui te font rêver ?
Alors moi, je suis un très grand fan de Nintendo, je pense que t'es déjà au courant de ça. En fait, moi, je joue beaucoup à jouer un peu de tout et n'importe quoi. En fait.
Ouais.
Enfin,
donc, tu te mets pas dans une case, tu restes curieux. Ouais.
Je fais vraiment du gros triple A sur Play 4, PlayStation 4, pardon.
Ouais.
Je fais beaucoup d'indie sur ma Switch. Enfin, je joue un peu sur mon téléphone aussi.
Mm-hmm.
Donc, ouais, je joue vraiment à tout et n'importe quoi. Quoi. Clairement, en ce moment, c'est beaucoup de Switch. Mais,
D'accord.
Ouais.
C'est quoi le dernier jeu sur lequel tu as passé beaucoup, beaucoup de temps ?
Alors, j'ai un peu de honte. Hein. Bon, j'ai pas forcément être honteux, mais c'est Fortnite.
D'accord.
Clairement.
Et tu trouves le temps quand même de... parce que ça demande une connexion en ligne. Tu joues chez toi ou tu joues...
Surtout chez moi, ouais.
D'accord.
Mais en fait, ce que j'aime bien...
Je vois des gens jouer avec la connexion du téléphone.
Ça m'est arrivé ça aussi, ouais.
D'accord.
D'avoir ma Switch dans le train et l'iPhone en tethering pour jouer. Ouais. Ça m'arrive souvent aussi, ouais. Moi, ce que j'aime bien avec ce genre de jeu, c'est vraiment des petites sessions. Tu rentres chez toi, tu manges, tu te poses pendant deux heures.
Ça commence par 30 minutes et ça finit par 2 heures, quoi.
Ouais, c'est ce genre de jeu, ouais, c'est un peu le problème, ouais.
Et t'as ton petit shot d'adrénaline.
Exactement.
Fortnite, c'est assez intense, quoi.
Clairement, ouais. Avant de dormir, une petite session. Ouais.
D'accord. Est-ce que tu aurais un jeu? Tu vois, alors là, on parle de jeux que t'aimes, voilà, que tu m'as dit des noms, tout ça, mais est-ce que t'aurais un jeu un peu moins connu que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui s'intéresse à la création de jeux vidéo et que toi, tu penses que c'est un bon jeu vers lequel se tourner, vers lequel... un jeu que tu, en tant que game designer, tu as beaucoup de respect, tu dis putain, dans ce jeu-là, il y a beaucoup de bonnes choses.
Donc, s'il y a un seul jeu que je devais conseiller à quelqu'un, je pense que ça serait Katamari.
Ouais,
Katamari Damacy, ouais. Tout simplement parce que c'est une expérience qui reste atypique, en fait.
Bien sûr.
C'est super simple. C'est avec ton bonhomme, tu roules sur tout et n'importe quoi pour être de plus en plus gros.
C'est un concept simple qui parle à tout le monde. En fait. Juste en voyant un screenshot du jeu, tu comprends le gameplay. T'as pas besoin de jouer.
Exactement. Et ça serait très percutant. Enfin, c'est beau visuel. Enfin, c'est beau.
C'est coloré.
C'est coloré. Les musiques
c'est attrayant.
Géniales. C'est attrayant.
C'est pas quelque chose, tu vois ça, tu dis oh putain, il y a trop de couleurs. Non, tu te dis putain, c'est quoi, ça m'intrigue.
Ouais.
Et aussi, je dirais que niveau du son, c'est.
C'est formidable. Ouais, non, mais voilà.
C'est un ensemble, en fait. Ouais.
Ouais, clairement, ouais.
C'est peut-être le jeu indé avant l'heure, tu vois. Enfin, le jeu indé japonais avant l'heure, c'est.
C'est un peu ça, ouais.
Dans l'esprit, du moins. Tu vois, parce que ça reste un jeu fait par une grande boîte, mais avec une équipe à l'esprit indé qui n'était pas nécessairement nombreux, qui a eu ne voulait pas nécessairement avoir une atteinte en dehors du Japon qu'il a eu.
Ouais.
Enfin, ça reste un petit peu fou.
C'est marrant, le jeu est devenu très très populaire en Occident, quoi.
Bien sûr, ouais.
Alors qu'au final, le jeu est, enfin, en tout cas, l'esprit est très japonais, quoi.
C'est d'ailleurs son créateur, Keita Takahashi, maintenant il travaille à
Funomena
aux États-Unis.
Ouais, ouais, clairement. Ouais. Il fait quel jeu? J'ai oublié.
Ah putain, j'ai oublié le nom.
Watam, ouais. Exact. Ouais, non, mais voilà, faut jouer à Katamari, quoi, clairement.
C'est d'ailleurs, il y a pas d'excuse, hein, il est sur Switch. Sur Switch. Ouais, il vient de sortir sur Switch et il y a la démo gratuite.
J'ai acheté le jeu sur Switch, Day One, quoi.
D'accord. Donc voilà, il y a pas d'excuse, vous pouvez y jouer.
Clairement. Et puis c'est un jeu qui met la banane, quoi, au final, quoi.
C'est vrai. C'est un good feel game.
Un good feel game, clairement, ouais.
Dernière question, Amine.
Ouais.
Et après ça, je te laisse tranquille.
Ouais, pas de problème.
Si demain quelqu'un vient et te demande, j'aimerais faire game designer au Japon, je ne parle pas un mot de japonais. C'est quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour venir m'installer au Japon? Alors, pas nécessairement que sur Game Design, en fait, sur la vie du Japon en général, tu vois.
C'est une très bonne question, mais en fait...
Qu'est-ce que tu dirais à ton toi avant de partir de France? Genre, ah non, mais attends, prépare-toi bien là-dessus. Ah oui, puis fais ça aussi.
Alors,
Publie pas ta brosse à dents.
Alors, Amine, apprends le japonais, mais vraiment bien. Non, mais ouais, c'est...
On n'appuiera jamais assez...
Ouais.
En fait, il y a cette espèce de fausse idée qu'on peut s'en sortir avec l'anglais partout, mais pas au Japon.
Ouais, mais clairement, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais L'un des plus gros conseils, ça serait bien sûr d'apprendre le japonais.
Ouais.
Avoir un esprit ouvert. Mm-hmm. Savoir t'ouvrir à nouvelles méthodes de développement, de nouvelles choses aussi, parce que ouais. Bah, ça reste différent de l'Occident, de ce ouais. que tu peux voir.
J'imagine rester flexible aussi.
Rester flexible, bien sûr. Mais clairement, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui doivent visiter parce qu'ils ne parlent pas japonais ou quoi que mm-hmm. ce soit. Et du coup, tu peux dire que c'est insurmontable. Mais si quelqu'un demain me dirait, ouais, je veux venir au Japon, je ne parle pas japonais, je veux faire un métier de game design ou quoi que ce soit d'autre, juste se lancer, quoi.
Moi, je veux dire, bien sûr, ouais.
Tu prends un working holiday, tu viens, il n'y a aucun risque au final, quoi.
Du moins que ça va coûter de l'argent,
mais c'est
un risque à prendre, quoi. Il n'y a rien sans rien, c'est un investissement.
Exactement,
et puis,
ouais.
Même admettons, ça ne marche pas. Admettons, tu serais venu, tu aurais fait tes 6 mois. Ben, à terme, tu aurais eu 6 mois de vie au Japon. C'est cool. C'est, ouais. c'est un voyage, c'est une expérience, c'est un dépaysement, c'est plein de choses. Ouais.
Exactement. Mais en fait, tu as tout dit, quoi. Je veux dire, tu viens avec ton working holiday, tu restes 6 mois, même si ça ne marche pas, bah, ça te fait une bonne expérience ici.
Tu grandis personnellement, quoi.
Exactement. Bah, au final, c'était mon premier but, quoi, quand je suis venu ici. C'est, je pensais rester quelques mois et au final, bah, je vais sur mes 7 ans, quoi.
Et est-ce que tu te conseillerais à toi-même,
ouais.
Ton toi plus jeune, bien sûr,
ouais.
De toucher les moteurs plutôt, d'essayer d'apprendre, d'obtenir un bagage technique un peu plus tôt ou alors de le laisser venir, de laisser les choses venir ou
ouais.
c'est pas nécessaire.
Mais en fait, je pense que c'est un problème commun aux game designers, en fait.
Ouais.
Ils restent coincés sur du papier, quoi.
Ouais.
Mais je pense que c'est un problème qui commence à s'estomper, justement, parce que la plupart des moteurs actuels, maintenant, font en sorte que des profils non techniques
ouais.
puissent faire des choses, en fait.
D'accord.
Pour moi, le meilleur exemple, t'as Game Maker, t'as RPG Maker.
Ouais.
Et au niveau calibre lourd, t'as Unreal, quoi.
Ouais.
Ça permet vraiment de faire des choses. Et je pense que c'est un très bon plus, quoi.
Donc, il n'y a pas d'excuses, quoi. Il y a des softs accessibles à tout le monde. Et j'ai même envie de dire, en fait, là, on parle de soft de création de jeux vidéo, mais par extension, tu pourrais dire que Dream, le prochain jeu de Media Molecule,
oui,
tu crées des choses. Little Big Planet, tu crées des niveaux. Mario Maker, tu crées des niveaux. N'importe quoi est bon, en fait, pour s'entraîner.
Exactement.
Un bout de papier pour faire des labyrinthes, tu fais jouer à tes petits collègues, ça marche aussi, tu vois.
Ouais.
Tout est bon, il n'y a pas d'excuse, quoi.
C'est marrant parce que, je vais avant de passer sur un autre truc que je voulais ajouter, en fait, justement, mais sur mon portfolio, j'avais pas mal de niveaux, en fait, Mario Maker.
Ah ouais,
ça, ouais.
Ah, c'est cool.
Ouais, j'avais aussi un peu de Little Blue Planet et Sound Shapes. Je sais pas si tu connais Sound Shapes.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Ce genre de jeu, comme tu dis, il y a beaucoup de jeux qui proposent justement des level editors. Et c'est une aubaine pour nous parce qu'au final, ça te donne des tools quasiment gratuits pour faire ouais. des choses. Quoi.
Et notamment, ça montre aussi que tu joues. Parce que c'est des,
aussi, ouais.
c'est dans des jeux. Tu
crées
du
ouais.
contenu dans des jeux.
Ça montre que tu maîtrises un certain jeu et tu peux faire du contenu avec. Quoi. Et en fait, il y a quelque chose qui n'est pas trop. Bah, justement, pour rebondir sur la question du. Qu'est-ce qu'un game designer qui veut venir bosser ici pour avoir comme avantage, en
mmh,
fait
mmh.
C'est un portfolio, en fait.
Bien sûr, ouais.
Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de game designers japonais qui n'ont pas ça.
Ah, il n'y a pas de notion de portfolio au Japon.
En fait, non, bien sûr, si. En fait, bah, pour les artistes,
pour les artistes, bien sûr.
Mais ouais. pour les game planners, enfin, game designer, game ouais, planner ici, ouais. c'est pas quelque chose qui est très répandu.
D'accord.
Et de venir avec ça, ça permet de marquer un très bon point, je pense.
Ah ouais.
D'accord. D'avoir des, tout et n'importe quoi, ça peut être des prototypes de jeux sur Unreal, sur quoi. N'importe quel moteur, des niveaux de jeu ou plein de choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui est bon à prendre, quoi, clairement. Quoi. Et c'est quelque chose qui te permet de te démarquer, en fait, des autres candidats. En tout cas, je pense. Ouais.
Amine, merci.
Je t'en prie. Merci.
C'était super intéressant d'avoir ton retour de game designer au Japon.
Ben, merci. Merci de m'avoir accueilli.
Et ben, on te souhaite tous bonne continuation dans ta carrière. Et puis, qui sait, peut-être dans 10 ans, on se reparlera dans la Dev Team. Et tu nous présenteras ton dernier jeu duquel tu seras directeur.
Une expérience au Canada.
Ouais. Putain. Ah merde. Je l'attendais pas celle-là.
Ouais, bah ouais. Bah, merci de m'avoir accueilli. En tout cas, c'était super cool.
Je remercie encore une fois Amine pour avoir pris le temps de partager son expérience et ses aventures avec nous. Merci également à Sly pour le montage et Lucas pour le mix. Retrouvez tous les précédents épisodes de la Dev Team sur vos podcasts de plateformes habituelles. Vous pouvez nous laisser vos messages directement dans les commentaires sur la page de l'émission sur radiokawa.com, nous contacter sur Twitter @ladevteam ou par email ladevteam@radiokawa.com. Nous attendons vos questions pour pouvoir y répondre dans l'émission. Si vous aimez la Dev Team et souhaitez soutenir la création de podcasts indépendants, c'est possible en donnant à notre Patreon. Plus d'informations sur radiokawa.com/Patreon. Et enfin, à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut !
Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou,
c'est moi,
dissèque un élément d'un jeu vidéo,
un signe vidéoludique,
et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid,
le score dans le premier Megaman,
le choix dans The Stanley Parable,
la difficulté à rebours dans Braid.
Autant de raisons d'écouter ludographie comparée sur Radio Kawa.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions ? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché ? Ne cherche plus !
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma, tout y passe en statut culturel, dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro, aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.